BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les témoins de ce monde qui est en train de se bâtir, se construire jour après jour, faire de vous des contemporains du futur. Bienvenue à tous, vos pros des cryptos chaque vendredi sur BFM Business et sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Nos talents non fongibles sont là, nos NFT rien qu'à nous, ils sont présents, ils répondent à l'appel de BFM Business. Stanislas Barthélémy, bonjour Stanislas.
Bonjour Guillaume.
Et bienvenue, senior manager crypto pour KPMG. Thibaut Boutrou aussi nous accompagne depuis les bureaux de Meria. Bonjour Thibaut.
Bonjour Guillaume.
Ravi aussi de vous retrouver. Dans un instant, on va parcourir l'ensemble de l'actu de cette semaine qui aura été très très intéressante cette nouvelle semaine. Mais d'abord, le potentiel sur les cryptos. Vincent Gann est avec nous, analyste technique indépendant. Salut Vincent.
Salut Guillaume.
Vincent, le cycle actuel du Bitcoin est encore long, hein, c'est ce que vous répétez toutes les deux semaines dans cette émission. Vincent, la Fed qui s'est exprimée cette semaine, la Fed peut-elle être un catalyseur et peut-être jouer ce rôle de catalyseur qu'on attend dès ce printemps ?
Alors c'est pas faux, je le répète. Je le répète deux fois par mois sur votre antenne. Non, mais vous avez raison de le rappeler, Guillaume, parce que de plus en plus s'installe cette idée que nous serons déjà dans un grand marché baissier Bitcoin. Moi, j'estime que ce cycle lié au halving d'avril 2024, il n'est pas terminé. Alors, sur votre question plus précisément, effectivement, ce qu'on sait, c'est que le cours du Bitcoin, mais en fait, le marché action, les actifs risqués en général, ce cours du Bitcoin, il est corrélé à l'offre monétaire. La Fed s'est exprimée cette semaine. Ce que l'on sait, c'est que l'offre monétaire, elle est en rebond depuis le début de l'année, mais en fait, essentiellement provenance de Chine, d'Europe. Aux États-Unis, ça dépend de la Fed. Ce que moi, je retiens des annonces de cette semaine, c'est qu'à partir d'avril, donc c'est bientôt, elle va commencer à réduire la vitesse de la baisse de son bilan. Vous voyez un peu, je cherche des choses positives pour trouver une raison au rebond du Bitcoin. Bon, c'est un catalyseur un peu fragile, en fait. On attend surtout la reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Est-ce que ce sera malgré tout un catalyseur au moins de rebond technique en avril? Moi, je pense que oui, mais nous sommes toujours en attente d'un signal technique.
Alors du coup, sur le plan technique, signal oui. Technique, c'est ce que vous disiez pour cette fin mars. Comment est-ce que vous voyez les choses et le potentiel pour le Bitcoin?
Écoutez, pour le moment, il n'y a pas de signal de fin de correction. Si on fait démarrer la correction court terme au 20 janvier dernier, le jour où Donald Trump a pris le pouvoir, le plus important pour croire encore au cycle, c'est de tenir l'ancien record historique, 69 000, 73 000 dollars. Pour l'instant, c'est encore le cas. Maintenant, pour envisager une reprise, il faut dépasser une résistance. On a tenté de le faire mercredi avec la Fed. Finalement, c'est retombé le lendemain. Donc, on est toujours en attente d'un signal. Et le minimum légal, ce serait d'être capable de franchir les 85 000 dollars et de se maintenir au-dessus de ce niveau pour envisager une reprise. Là, vous voyez, on a 83 800 dollars. Donc, c'est pas le cas. C'est toujours pas le cas. Mais voilà, je suis confiant pour le mois d'avril.
Vincent Gann avec nous régulièrement, analyste technique indépendant. Merci. Merci Vincent d'avoir répondu une nouvelle fois à notre appel. Alors l'actualité a été riche cette semaine, on le disait, on va en parler. On va parler du XRP. La SEC en effet abandonne ses poursuites, sans doute un verrou en moins d'ailleurs pour l'innovation dans les blockchains. On va donc détailler les choses. On parlera aussi de minage. Est-ce que le minage pourrait d'une certaine façon sauver EDF ? EDF qui a besoin de beaucoup d'argent pour financer ses projets, ses investissements dans le nucléaire notamment. Il va falloir trouver cet argent pour éviter une trop forte hausse des factures d'électricité. Est-ce que le minage pourrait être la solution ? On va détailler et surtout explorer les perspectives parce que la thématique est en train d'arriver dans le débat politique également. Et puis on parlera de réserves stratégiques. Les Américains sont sceptiques sur les réserves stratégiques de Donald Trump. Un sondage montre qu'une majorité d'Américains ne souhaitent pas cette réserve stratégique. On verra si ça risque de limiter l'ampleur, la taille de la réserve stratégique américaine. C'est votre machine à concentrer l'essentiel. Les pros des cryptos chaque vendredi, c'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Et nos talents de ce vendredi, Stanislas Barthélémy, il est avec nous. Bonjour Stanislas, bienvenue.
Bonjour Guillaume.
Thibaut Boutrou aussi vous nous accompagne. Salut Thibaut.
Bonjour Guillaume.
Ravi messieurs de vous retrouver. Le Bitcoin a encore souffert, c'est vrai, ces dernières semaines. On est cet après-midi, ce vendredi après-midi, sous les 84 000 dollars pour le Bitcoin. Alors pour savoir où va aller le Bitcoin, il est intéressant de regarder le comportement des investisseurs en ETF également, Stanislas. Où en est-on des encours sur les ETF Bitcoin ?
Quand on analyse les statistiques autour du Bitcoin, c'est vrai que les ETF deviennent des thermomètres, quelque part, de l'appétit pour les investisseurs. Il y a deux manières de le voir. La première, si on considère en fonds sous gestion en dollars, il y a un recul, mais il est du fait de la volatilité de Bitcoin, donc de sa baisse de prix en dollars. Donc, ce n'est pas forcément la bonne métrique à regarder. La deuxième, qui est plus intéressante, je trouve, c'est de regarder les entrées et les sorties. Et si on considère un pas de temps de deux semaines, donc une quinzaine de jours, c'est 500 millions de dollars qui ont quitté les ETF Bitcoin. ce sont des mouvements qu'on a déjà constatés, qui sont liés à l'actualité, à la macroéconomie, au choix d'investisseurs d'allouer différemment leur investissement. Mais 500 millions au regard d'une collecte et d'un total qui est de 100 milliards, c'est moins de 0,5% du total. Donc il n'y a rien qui soit vraiment impactant, il n'y a rien qui soit alarmant. Au contraire, même, j'ai envie de dire qu'il y a une forme de résilience. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'or qui progresse un peu plus dans ces états de tension de la macroéconomie ou géopolitique. Mais pas de problème à noter du côté des ETF.
Effectivement, l'or qui a franchi ces derniers jours la barre des 3 000 $ l'once. Alors, on regarde le comportement des particuliers, l'évolution des encours sur les ETF, et puis en face, les institutionnels. Du côté des institutionnels, alors que le Bitcoin a corrigé ces dernières semaines, quel comportement est-ce qu'on observe en ce moment, désormais, Thibault?
On observe une sorte de tendance de fond qu'on commente et qui se dessine de plus en plus sur une adoption progressive des institutionnels envers les cryptos et la blockchain de différentes manières. Et on a différents types d'acteurs, c'est-à-dire qu'on a les acteurs historiques, entre guillemets, ceux qui ont des convictions, qui continuent finalement à suivre leur plan, malgré tout le contexte, malgré tout le bruit. On a Strategy qui continue à accumuler encore un peu plus de 100 bitcoins cette semaine, l'homologue japonais Metaplanet également, le Salvador qui, malgré les discussions avec le FMI, continue aussi son plan d'accumulation. Donc on a cette typologie d'acteurs convaincus qui déroge pas au plan de base et qui continue sa stratégie d'accumulation. Et puis on a un autre son de cloche un peu plus nouveau qui est matérialisé par une étude qui a été menée par Coinbase et EY qui est sortie cette semaine, où ils ont interrogé un peu plus de 350 investisseurs institutionnels sur différents continents, des banquiers privés, des hedge funds, des asset managers, et on leur a demandé justement c'était quoi un peu leur position sur Bitcoin. Et là, le résultat il est sans appel. Et il est, alors le chiffre, il est anecdotique, il y a 83% des investisseurs sondés qui envisagent d'exposer ou de renforcer leur exposition sur Bitcoin et les cryptos sur les prochains mois. Alors le chiffre, le 83%, entre guillemets, on s'en fiche un peu. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette tendance de fond qui se dessine, où il y a effectivement de plus en plus d'acteurs institutionnels qui s'y mettent. On a de plus en plus d'outils, c'est de plus en plus démocratisé. Donc ça, c'est plutôt la tendance de fond que je retiens, moi.
Et cette question d'ailleurs, dans cet univers crypto, pour l'évolution des cours, qui a le plus d'influence? Les institutionnels dont vous parliez à l'instant, Thibault, ou les particuliers à travers notamment les ETF? Il y a un match là-dessus, enfin, on arrive à voir clairement qui domine le plus, qui pilote le plus, qui influence le plus le cours des cryptos, Stanislas?
C'est une question qui est assez difficile, parce qu'on considère souvent, et à tort, que derrière les ETF, ce sont des institutionnels qui achètent. En réalité, la manière dont sont distribués les ETF, c'est que ce serait plutôt 75% du retail, ou ce qu'on appelle les high net worth, c'est-à-dire les personnes fortunées, qui utiliseraient l'ETF comme un support alors qu'ils auraient pu passer en crypto direct. Donc les institutionnels, on cite toujours les mêmes, quelques États, quelques entreprises, et pas des moindres, hein. Le but, c'est pas de minorer ce fait-là, mais c'est que c'est plutôt aujourd'hui le retail qui est demandeur de crypto-actifs. Quand on considère l'étude de l'ADAN, quand on considère les différentes études de Coinbase ou de Chainalysis, quand on regarde les volumes, c'est encore principalement le retail. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tendance de long terme d'arriver des acteurs institutionnels, et ça prend du temps, mais ça va permettre de quelque part d'abaisser la volatilité aussi des cours. Quand on regarde la volatilité de Bitcoin, elle ne fait que descendre depuis 10 ans.
Effectivement. Alors, parmi les institutionnels, on a Metaplanet aussi cette semaine qui a acheté 150 Bitcoins, et Metaplanet dont Eric Trump, le fils de Donald Trump, dont Eric Trump est devenu membre du conseil stratégique de Metaplanet. On voit l'engagement là du fils Trump. Ça vous fait sourire, Stanislas.
Bon. Il y a peut-être un peu trop d'engagement pour le coup.
Ouais, c'est ça. L'une des grosses infos de la semaine, messieurs. La SEC, le gendarme des marchés américains, annonce un traité de paix avec Ripple. La SEC abandonne ses poursuites. Le XRP a du coup vu son cours s'envoler. Cette marche arrière de la SEC constitue-t-elle un précédent important, Stanislas?
C'est un traité de paix pas que avec Ripple, c'est un traité de paix quasiment avec tout l'écosystème crypto, puisque les fondements légaux, je ne suis pas juriste, mais de l'attaque de la SEC, c'est qu'il n'y avait pas justement de définition de ce que c'était ces actifs. En l'occurrence, sur Ripple, la question, c'était de savoir qu'ils ont fait une vente au public et donc de savoir si cette vente au public était légitime ou pas. Mais en l'absence de définition, c'est ce que disait l'écosystème, c'est comment se conformer s'il n'y a pas de définition. Oui. Et c'est là où on se retrouvait quelque part dans une forme de paradoxe. La nouvelle donne avec l'administration Trump, c'est qu'effectivement, la SEC abandonne ses cas peu à peu avec le contentieux, avec tous les acteurs, que ce soit des fondations ou des intermédiaires. On pense à Coinbase, à Kraken, maintenant à Ripple. Donc, traité de paix avec l'écosystème, tous les cas sont en train de tomber Et ce qui est intéressant, c'est de la contraposer de ça, c'est qu'il y a enfin un cadre qui commence à arriver et donc des définitions.
Et est-ce que ça va du coup libérer encore davantage l'innovation dans l'univers des blockchains? Est-ce que de ce point de vue, c'est un cap important là, qui vient d'être franchi, ce recul, ce pas en arrière de la SEC?
J'ai envie de dire que c'est surtout bénéficiaire, net bénéficiaire pour les Américains, c'est-à-dire de faire revenir des acteurs internationaux qui avaient fui de par cette incertitude réglementaire. Maintenant, il y a une clarté qui commence à arriver et un soutien politique, peut-être un peu trop et mal fait de temps en temps, ça c'est certain. Mais Circle, par exemple, qui est revenu aux États-Unis, absence de... Maintenant, il y a de la certitude sur ce qui va être fait. On voit les premiers textes, les premières ébauches de textes sur les stablecoins notamment. Donc ce qui est sûr, c'est que là-bas, ça va y aller dans la mesure où des entreprises vont se relocaliser. Derrière, c'est des utilisateurs qui seront sécurisés, des emplois créés et ainsi de suite.
Le XRP qui, du coup, sur la nouvelle, aura dépassé cette semaine les 2,50 $. Par contre, Ethereum, c'est toujours pas ça. Standard Chartered, d'ailleurs, abaisse fortement, Thibault, sa prévision sur Ether. Il ne vise plus que 4 000 $ contre 10 000 dollars auparavant. Ils divisent donc par plus de 2 leurs objectifs de cours, de prix sur Ether. Comme quoi, toutes ces prévisions sur Ether et sur les autres cryptos, il faut toujours les prendre avec des pincettes, on va dire, Thibault.
Ouais, alors déjà, dans la revue de cette prévision, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que le premier chiffre, il était un petit peu trop surévalué et pas réellement réaliste, ou est-ce que c'est vraiment une revue parce qu'ils ont estimé que Ether, finalement, n'avait pas coché les cases qu'ils attendaient qu'ils cochent. Plus que le chiffre, c'est ça qui est important, et en fonction, ça n'envoie pas le même message. Après, sur les prévisions, effectivement, et on l'a déjà répété plusieurs fois, il faut prendre beaucoup de précautions en fonction de ce qui est donné, puisqu'on est dans un momentum où les cryptos sont sous les projecteurs, et donc on a beaucoup d'acteurs qui vont chercher à faire des prévisions un peu choc avec des prix très hauts ou des prix très bas, finalement, pour s'attirer un petit peu les médias et s'offrir un peu des tribunes publiques. Il faut s'interroger sur c'est quoi les motivations de l'acteur quand il va faire cette prévision et c'est quoi la méthodologie qui est utilisée. En fonction de ça, on peut donner plus ou moins de valeur à la prévision. Et après, de toute manière, aucune prévision n'est une vérité absolue. C'est-à-dire qu'on peut les regarder comme un indicateur d'ensemble pour voir un petit peu où on en est dans le marché, peut-être pour faire un petit peu ces plans aussi. Ça peut rentrer dans une stratégie vraiment globalisée, mais ce n'est pas le seul indicateur qu'il faut regarder, évidemment.
Effectivement. Après, allez-y, Thibault.
Non, et après, par contre, ben justement, sur cette analyse-là, pour le coup, ce que j'ai trouvé intéressant, par contre, dans la méthodologie, c'est qu'il y a pas mal d'arguments techniques qui ont été donnés pour justifier cette revue, notamment la montée en puissance des Layer 2. Donc, ça montre aussi que même ces analystes financiers qu'on considère, nous, comme traditionnels, ont cette capacité et aujourd'hui cette lecture qui va un petit peu plus loin que le bruit qu'on peut entendre. Donc, ça, c'est plutôt intéressant dans l'analyse, par contre.
Effectivement, et même sur la bourse quand même, hein, on voit les différentes banques américaines régulièrement actualiser leurs objectifs sur le S&P, sur les grands indices, etc., avec des prévisions parfois extraordinaires. Ça permet surtout de faire parler d'elles. Et souvent, ce sont des exercices de marketing et de communication. C'est pour ça qu'il faut regarder ça avec une certaine distance quand même. On l'évoquait il y a un instant, l'abandon des poursuites de la SEC contre Ripple. À part ça, il s'est passé quoi cette semaine aux États-Unis? Alors, on va arrêter de tourner autour du pot. On va parler de la réserve stratégique. La réserve stratégique américaine risque-t-elle de ne pas aller bien loin?
Oh non!
Bah si, un sondage montre en effet que les Américains ne sont en fait pas emballés du tout par cette réserve stratégique, ils y sont plutôt défavorables, Stanislas.
Le sondage est intéressant et j'ai un tropisme, on va dire, très personnel sur les sondages. Il faut toujours regarder la méthodologie et la question qui est posée et aussi la manière dont a été constitué, évidemment, le pool de répondants. La question qui était posée, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour que l'État fédéral dépense du budget pour, en l'occurrence, constituer cette réserve? Sous-entendu, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on achète sur le marché de la crypto? Ce qui n'est pas exactement, est-ce que vous êtes pour ou contre la réserve stratégique? Donc il y a une petite nuance à apporter quand même. Le sondage est intéressant, il statue en gros, tout confondu, que c'est 35% des Américains qui sont plutôt favorables à cette idée, 55% défavorables et après le reste des indécis. Quand on regarde la granularité politique et qu'on fait le détail entre républicains, indépendants et démocrates, ce qu'on voit, c'est que les républicains 40-40, 20 indécis, sur les indépendants et les démocrates, c'est beaucoup plus complexe. Pour le coup, c'est une minorité, un peu au-dessus de 20, voire 25, le reste des défavorables et des indécis. Donc il y a toujours cette ligne de crête politique, et surtout, ce que je peux comprendre, quand on analyse et si on transpose un peu sur la France, est-ce qu'on serait d'accord en tant que contribuable alors qu'il y a tellement de priorités, que l'État utilise une partie de ses ressources qui sont maigres enfin importante, mais il vit au-dessus de ses moyens, plutôt pour acheter du Bitcoin, plutôt que d'avoir des priorités que peuvent être la santé, les infrastructures, l'éducation, etc.
La défense.
Ou la défense, surtout en ce moment. C'est quelque chose qui est assez cohérent. Et d'ailleurs, le sondage détaille que c'est la dernière préoccupation. Dernière préoccupation, dernière priorité quand on propose aux répondants de regarder les différentes thématiques que je donnais. Donc c'est pas tant un refus de la réserve stratégique qu'un refus d'allouer des moyens budgétaires. Il y a d'autres, on en reparlera après, mais il y a d'autres moyens de constituer cette réserve et surtout de l'augmenter sans forcément faire des achats sur le marché. D'ailleurs, c'est encore flou aux États-Unis de savoir s'ils vont le faire. Je pense que s'ils regardent un peu les sondages, ils y iraient pas. De sitôt.
Alors, vous nous direz dans un instant comment on peut faire, du coup, comment les États-Unis pourraient trouver, ou quelques pays que ce soit, une solution là-dessus. On verra quelle sera la taille de cette réserve stratégique américaine. Mais alors, pour la Banque de France, c'est clair. Les États-Unis, là, en donnant autant de poids aux cryptos, les États-Unis sont en train de préparer le lit d'une prochaine grande crise financière. C'est ce qu'a dit François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France cette semaine. Les cryptos, l'importance que les États-Unis leur donnent, ça prépare une grande crise financière à venir, Thibault.
Ouais, alors, pour pas lui faire de procès, mettre un tout petit peu de nuance, effectivement, il s'est exprimé sur le sujet. En fait, il a eu une grande tribune dans un grand média français où il a évoqué un certain nombre de sujets. Il a évoqué notamment beaucoup de préoccupations vis-à-vis de la politique de l'administration Trump. Et dans l'ensemble de ces préoccupations, il y a une petite partie sur les cryptos où il parle justement effectivement de ce que vous venez d'exprimer. Donc, mais il faut remettre un petit peu dans le contexte parce qu'effectivement, si on focalise uniquement sur la position des États-Unis vis-à-vis des cryptos peut préparer une crise financière. À un moment donné, faut prendre un petit peu de recul et être pragmatique. Aujourd'hui, l'exposition des institutions aux cryptos, elle reste quand même relativement limitée. On est très très loin de pouvoir avoir un effet systémique sur l'ensemble des marchés financiers à l'international. D'ailleurs, ce qu'on a pu constater sur les derniers malheureux événements qu'on a eu dans la crypto, que ce soit le krach de FTX ou l'affaire UST Luna, qui était en plus à des horizons de temps relativement proches, l'effet sur les marchés financiers a été quasiment nul, quoi. Il y a eu des effets effectivement systémiques à l'intérieur de l'écosystème crypto, mais pas suffisamment pour ricocher dans l'écosystème crypto. Après, la position de la Banque de France sur les cryptos, on la connaît, elle est plutôt prudente, voire critique, même si des fois ils ont eu un discours un peu plus nuancé. Et là, ce propos-là est aussi une manière indirecte de critiquer un petit peu la position des États-Unis sur les cryptos pour justifier la position européenne qui est plutôt très appuyée sur la régulation avec l'arrivée de l'euro numérique aussi. C'est une manière aussi peut-être de préparer le terrain à ce niveau-là. Donc à prendre avec quand même de la hauteur cette déclaration.
Ouais. Stanislas.
Je suis totalement d'accord avec Thibault. Il y a très peu de détails sur pourquoi ça viendrait des crypto-monnaies. Il ne faut pas s'interdire de penser à des conséquences possibles de la politique américaine en cours. J'en évoque un, par exemple, la création des stablecoins. S'il y a un cadre législatif clair pour les stablecoins, les grandes banques américaines vont toutes y aller. C'est très probable. Mais ce qui est intéressant, c'est derrière le collatéral de ces stablecoins. Qu'est-ce qu'on y retrouve ? De la dette américaine. Et si on projette, par exemple, 10 fois plus de stablecoins dans quelques années par rapport à aujourd'hui, ça aura une incidence, parce que ce sont des consommateurs de la dette court terme américaine. Donc, et on sait que ce yield est important dans la finance traditionnelle, ouais. Donc s'il y a énormément de demandes pour cette dette-là, est-ce que ça aura des incidences ? Est-ce que ça deviendrait systémique ? Je ne suis pas sûr, je ne présume pas de la position de François Villeroy de Galhau, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas minorer cette connexion entre les deux qui aurait des conséquences.
Les pros, les cryptos, votre machine à remonter la semaine, à condenser la semaine en à peine 20-25 minutes, à retrouver aussi sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Et la France, pendant ce temps, elle va peut-être porter un regard désormais plus stratégique sur les cryptos. On sent que le débat autour des cryptos monte chez les politiques à maintenant deux ans de la présidentielle. Une probable candidate à la présidentielle, d'ailleurs, propose de miner des bitcoins pour renforcer EDF, renflouer et renforcer les caisses d'EDF. Est-ce que ce serait une vraie solution, une vraie ou une fausse bonne idée, le minage pour sauver EDF, Stanislas ?
Alors la question est grandiloquente. Est-ce que le minage peut sauver EDF ? Pas nécessairement. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a une opportunité économique et énergétique. Il va y avoir un débat assez intéressant en France dans les prochaines semaines. Ça a déjà commencé avec moult rapports très techniques sur ce qu'on appelle le plan pluriannuel d'énergie, PPE3. C'est-à-dire comment on finance nos infrastructures tout en conciliant nos objectifs de réduire, par exemple, les émissions de carbone, etc. Et c'est sûr que le minage de Bitcoin peut être un outil dans ce débat, dans la mesure où, alors là, je cite Sébastien Gouspillou, mais il y en a d'autres, hein, maintenant l'INBI avec Alexandre Stachenko qui défendent cette idée, c'est que ce qu'on appelle le facteur des charges des centrales nucléaires, c'est-à-dire le taux d'utilisation en quelque sorte est d'environ de 65-70%, là où ce parc nucléaire est conçu pour tourner à 90%. Oui. Donc on pourrait utiliser une partie, pas totalité évidemment, de ce différentiel.
La nuit.
Pour miner du Bitcoin, et qui est une industrie qui est intéressante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas géodépendante, et en soi on peut la mettre sur on-off, en le couplant à du nucléaire qui est pilotable, il y a quelque chose à faire en la matière. En s'amusant un peu à modéliser, j'estime que ça peut être plusieurs centaines de millions d'euros par an. Donc, on est assez loin des ordres de grandeur de la dette d'EDF qui est à plus de 50 milliards, ou même du coût d'un EPR. Il y en a 6 qui seraient potentiellement en construction dans les prochaines décennies. Et le coût d'un seul réacteur EPR, c'est 10 milliards. Donc, en termes d'ordre de grandeur, c'est pas exactement, on va dire, les bons agrégats. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des solutions. Donc, autant y aller. Donc, c'est une bonne proposition. Je forme le vœu que d'autres candidats et d'autres partis se saisissent aussi, puisque c'est plus un enjeu énergétique qu'un enjeu financier, en l'occurrence. Donc, c'est quelque chose qui a un terrain de jeu peut-être plus intéressant pour les partis politiques. Il y avait, par exemple, une délégation de membres de l'écosystème crypto qui sont allés avec François Hollande, et François Hollande s'est affiché en photo avec eux. Donc, c'est pas encore un soutien en bonne et due telle, mais c'est quand même un petit clin d'œil de dire tous les partis peuvent se saisir de ces sujets.
Et on sent qu'on est à 2 ans de la présidentielle. On voit de plus en plus de politiques parler crypto, là.
C'est une clientèle électorale. Ouais, si on statue qu'il y a 15% des détenteurs, enfin de Français adultes qui ont déjà détenu des cryptos, la conclusion, c'est que ça devient une clientèle à capter, outre peut-être des convictions qui se développent.
Alors, ils ne sont pas très nombreux, mais certains politiques proposent aussi de créer, comme aux États-Unis, une réserve stratégique. Ici, en France, c'est l'objet de la question crypto qui claque, messieurs. Chaque semaine, on pose effectivement cette question embarrassante à nos experts. Vous pouvez, vous aussi, qui nous suivez à la radio, à la télé ou encore sur nos réseaux sociaux, participer en vous abonnant à notre fil XBFM Crypto. Stanislas et Thibault, êtes-vous prêts ?
Prêt.
Prêt.
À répondre à cette question embarrassante. La voici. Entre une réserve stratégique française de Bitcoin et le minage du Bitcoin au profit d'EDF, qu'est-ce qui a le plus de chances de voir le jour ? Le minage massif en France pour EDF ou une réserve stratégique carrément en Bitcoin ? C'est la question de la semaine, elle est embarrassante. N'hésitez pas vous tous à participer, vous êtes déjà nombreux à le faire depuis ce matin et surtout nous laissez vos arguments en commentaire, chacun de vos commentaires compte. Thibaut, Stanislas, qu'est-ce qui a le plus de chances de voir le jour ? Une réserve stratégique française ou le minage massif ?
Minage puis réserve. Et d'ailleurs, c'est une question qui est moins embarrassante qu'à d'autres éditions.
Oui, c'est pas faux. Thibaut, pour vous, qu'est-ce qui a le plus de chances de voir le jour ?
Ouais, même réponse, le minage.
Pourquoi le minage avant la réserve stratégique ? Thibaut ?
Alors déjà, le minage pourrait être, en fonction de la manière dont on le fait, une manière aussi de constituer une éventuelle réserve, hein, puisqu'on pourrait, plutôt que d'acheter des bitcoins, récupérer les bitcoins qui sont minés pour constituer une éventuelle réserve. Et au-delà de ça, Stanislas l'a dit en préambule, c'est que le minage, la manière dont il est abordé sur un enjeu énergétique. Donc c'est beaucoup plus confortable à défendre comme propos, à la fois pour un acteur comme EDF, à la fois pour des partis politiques. Donc c'est beaucoup plus confortable d'aller dans cette direction, là où le propos d'une réserve stratégique, on voit toute la complexité que ça peut entraîner. On en parle depuis déjà plusieurs mois aux États-Unis. On ne sait pas encore exactement la manière dont ça se fait. On ne sait pas de quelle manière les citoyens vont répondre, la manière dont elle va être constituée. C'est tout un message, la réserve politique, qui est géopolitique et donc qui est très compliqué à mener. Donc, à mon avis, la réserve, en réalité, on en est assez loin en France, sauf si on est capable justement de mettre en place d'autres outils qui permettent d'accumuler du Bitcoin d'une autre manière et peut-être d'en attribuer une partie à de la réserve. Et à ce moment-là, ça peut être entendu.
J'ajoute une considération, c'est que les États-Unis et une réserve en Bitcoin, c'est un peu paradoxal avec une volonté d'hégémonie du dollar. Parce que si demain, on peut faire des transferts internationaux avec du Bitcoin, qui est en même temps on va dire stacké par les États-Unis, c'est contradictoire avec leur volonté de dire non, c'est la monnaie des échanges internationaux, c'est le dollar comme ça l'est aujourd'hui. Ce qui ne devrait pas être la position géopolitique de la France. C'est-à-dire que nous, l'euro, il a une monnaie, on va dire, numéro 2 en termes des échanges internationaux. Et il y a un play stratégique de choisir Bitcoin potentiellement, mais oui, avec une partie minage, parce qu'encore une fois, l'endettement français ne permet pas de faire une stratégie positive.
Oui, oui. Aux États-Unis, vous parliez des grands paradoxes, il y en a beaucoup de Donald Trump. Il a répété là, en cette fin de semaine, qu'il voulait faire des États-Unis la superpuissance incontestée du Bitcoin et en même temps maintenir l'hégémonie du dollar. Bon, on verra si ces thèmes, en tout cas, nourrissent ici aussi en France la prochaine présidentielle. Cette présidentielle, elle aura lieu dans 2 ans et d'ici là, dans 1 an, ce sera... Ah oui. Dans un an, ce sera les municipales ici en France. Mais oui, ça approche. Les cryptos vont-elles devenir aussi un thème de campagne des municipales ? Cannes s'engage, la ville de Cannes s'engage fortement dans les cryptos. Cannes va former l'ensemble de ses commerçants au paiement en crypto. Eh bien, Toulouse n'est pas en reste. À Toulouse, les transports en commun seront bientôt crypto-compatibles. On pourra payer son ticket de bus Stanislas en crypto.
Initiative assez drôle, je trouve, et audacieuse. C'est une bonne idée. Ça met la lumière sur cette belle ville. Et vous citiez Cannes à raison aussi, mais je suis pas sûr que les 34 000 autres communes françaises vont se saisir de ces enjeux-là. Je le dis en connaissance de cause. Je suis modeste élu de banlieue dans le Val d'Oise. J'aimerais bien parler de Bitcoin aux Mérisiens, les habitants de ma ville. Mais les préoccupations premières, c'est plus la sécurité, l'éducation, faire en sorte que la ville soit propre, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de marketing politique, c'est pas malhabile de faire ce genre d'initiative. En réalité, on peut déjà payer par carte bancaire dans certaines grandes métropoles. Là, l'idée, c'est qu'on peut payer par carte bancaire ou flasher un petit QR code pour payer en Bitcoin. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont les dépenser, mais l'initiative est assez amusante. Et Cannes, profil un peu différent. C'est une ville avec, on va dire, une surface internationale. Des événements de
Toulouse
renom.
Toulouse aussi, Toulouse, Airbus, c'est une ville internationale.
C'est vrai. Mais je pensais plus sur la Croisette et aux différents congrès qui sont créés au Palais des Festivals à Cannes. Ouais. Donc je ne suis pas persuadé que les municipales et la crypto vont être un bon mariage.
Ça, Thibaut, pour vous, c'est juste du gadget ou il y a quelque chose, un enseignement à tirer du fait qu'à Toulouse, on pourra payer son ticket de bus en crypto ?
Non, mais oui, enfin, c'est surtout un effet marketing. Et de toute manière, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce que disait Stan juste avant, avec des cartes bancaires, aujourd'hui, les cryptos sont intégrés sur les réseaux Visa, Mastercard. Donc, on peut déjà très facilement, en fait, utiliser les cryptos pour payer au quotidien dans toutes les enseignes sans qu'il y ait de friction particulière ou de choses supplémentaires à mettre en place pour les commerçants. Donc, je pense que c'est surtout du marketing. Et après, sur la dimension des municipalités et plus politique, le sujet qu'il faudra suivre aussi, c'est à quel point il va y avoir effectivement des sujets de récupération et à quel point la crypto va peut-être être utilisée justement comme un moyen d'aller chercher des voix et là sur lequel il faudra aussi prendre un peu de hauteur sur les décisions et sur les déclarations qui vont être faites.
Ce sera intéressant de voir si, alors aux États-Unis il y a quelques années, quand vous disiez que vous étiez pro-crypto, c'était pas très porteur électoralement. Ça l'est devenu, on l'a vu avec Donald Trump, ça a marché pour lui. On va voir si en France on a franchi la bascule aussi et si ici aussi, comme aux États-Unis, il est devenu plutôt populaire de dire qu'on est pro-crypto ou si ça suscite encore du scepticisme. Ce sera intéressant à observer dans les deux années qui viennent. Ce sera deux années de campagne intéressantes aussi pour mesurer la popularité des cryptos. Merci à nos deux experts. Juste, on regarde le résultat de cette question qu'on vous pose sur BFM Crypto, la question crypto qui claque. Est-ce que vous croyez d'abord dans la mise en place d'une réserve stratégique ici en France ou d'abord dans l'émergence d'un mining massif? Vous êtes une majorité à croire, comme nos deux experts, au mining massif. Voilà, pour financer EDF plutôt qu'à une réserve stratégique française. 78% d'entre vous pensent qu'il y aura minage massif pour EDF plutôt qu'une réserve stratégique. Merci à nos experts. Stanislas Barthélémy, KPMG et Thibaut Boutroux pour Meria. Salut messieurs, on vous souhaite un bon week-end. Les pros des cryptos sont à retrouver, bien sûr, sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Et dès lundi 15h, vous retrouverez également Sandra Gondouin pour les cryptos, le club crypto du lundi au jeudi. Bon week-end à tous.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.